Lizzie présente La Cité de l'Arme de Kate Mossy, lue par Fabienne Loriot. Comme toujours, à mes chers Greg, Martha et Félix, ainsi qu'au très regretté Peter Clayton. 20 juin 1964, 18 juin 2018. Mais lui qui trône au-dessus des nues voit et entend les prières des justes et vengera le sang des innocents que dans sa trahison guise tua et à leur fin éternelle mena. Christopher Marlowe, Massacre à Paris, 1593. L'esprit est un lieu à part et peut en soi faire de l'enfer paradis, du paradis enfer. John Milton, Le Paradis perdu, livre 1, 1667. J'ai déjà dit que l'expérience passée qui reprend vie dans le sens n'est pas celle d'une vie seulement, mais de plusieurs générations, sans oublier quelque chose de probablement assez ineffable. Le regard en arrière derrière les garanties de l'histoire écrite, le coup d'œil jeté par-dessus l'épaule à la terreur primitive. T.S. Eliot, Les Dry Salvages, 4 Quatuors, 1941. Prologue. Franz Hook, 28 février 1862. La femme est étendue sous un drap blanc dans une pièce blanche et rêve de couleur. Hier rust, Sigi. Elle ne se trouve plus dans le cimetière. Si? Elle est prise entre le sommeil et l'éveil, émergeant d'un milieu d'ombre pour entrer dans un monde de lumière dure. Elle porte la main à sa tempe et, bien qu'elle sente que la chair est ouverte, découvre qu'il n'en coule pas de sang. Son épaule lui fait mal. Elle l'imagine couverte d'ecchymose, laissée par la pression des doigts de son assaillant. Se représente maintenant le moment où le journal en cuir brun lui a échappé des mains pour tomber dans la poussière rouge du cap de Bonne-Espérance. C'est la dernière chose qu'elle se rappelle. Ça, et les mots qu'elle porte en elle. Ceci est le jour de ma mort. Elle ouvre les yeux. Elle distingue à peine la pièce où elle se trouve et ne la reconnaît pas, mais c'est une chambre typique d'un intérieur cap-hollandais. Des murs blancs, nus, à l'exception d'une broderie représentant des versets de la Bible. Un plancher de bois brut, une commode et une table de chevet en micocoulier. Sur le chemin depuis le cap, en passant par Stellenbosch, Drakenstein et Parl, elle a logé dans nombre de demeures semblables. Des maisons de colons, certaines imposantes et d'autres petites, mais toutes imbues d'une nostalgie d'Amsterdam et de la vie laissée là-bas. La femme se redresse et pose les pieds par terre. Elle a la tête qui tourne et attend un moment que le vertige passe. Elle sent le plancher à travers ses bas. Son chemisier blanc et sa jupe de cavalière sont tachés de poussière rouge, mais quelqu'un lui a retiré ses bottes et les a placées au pied du lit. Son chapeau de cuir est pendu à un crochet au dos de la porte. Sur la commode est posé un plateau de cuivre avec un pichet en faïence, rempli d'un vin fort local, couleur de cerise. Un morceau de pain blanc et des lanières de bœuf séchées protégées d'un torchon. Elle ne comprend pas. Est-elle prisonnière ou invitée? D'un pas mal assuré, elle gagne la porte et la trouve fermée à clé. Puis elle entend les sifflements d'une volée d'étourneaux à l'extérieur. Elle lace ses bottes, s'approche de la fenêtre. Un petit carré garni sur l'intérieur de minces barreaux métalliques. Pour la retenir ou en empêcher d'autres d'entrer. Elle passe la main à travers les barreaux et ouvre la fenêtre d'une poussée. Le ciel au crépuscule est le même au Cap que dans le Languedoc. Blanc, avec un lavis rosé alors que le soleil se couche derrière les montagnes. La femme peut voir la chapelle au sommet de la ville, encore un petit édifice blanc dans le style cap-hollandais, avec un toit de chaume et des fenêtres en ogive de part et d'autre de la porte voûtée. Depuis que la nouvelle église a ouvert ses portes à la congrégation protestante quelques années plus tôt, celle-ci sert d'école. Sa vue donne de l'espoir à la femme. Au moins, est-elle toujours dans la ville. S'il avait l'intention de la tuer, il l'aurait sûrement emmenée là-bas dans les montagnes. Loin des regards indiscrets. Elle distingue également les vergers, aux branches alourdies de quetsch et de prunes de damas, de poires safran et de pommes sucrées. Au cours des dernières semaines, elle a appris à identifier chaque variété et les fermiers qui les cultivent. Les Hugo et les Homan, les De Villiers et les descendants des Dutoit. Maintenant, elle peut entendre les voix chantantes de fillettes en train de sauter à la corde. Un mélange de hollandais et d'anglais, sans français. Le résultat d'années de lutte pour prendre le contrôle de cette terre volée. Le Cap est redevenu une colonie britannique et la rue principale de Franz Hook a été renommée Victoria Street en l'honneur de la reine anglaise. Un peu plus loin, la triste mélopée des hommes rentre en des champs. Une autre langue qu'elle ne reconnaît pas. Son soulagement est de courte durée. Il cède rapidement place au chagrin devant la perte du journal, de la carte, du précieux testament qui était dans sa famille depuis des centaines d'années. Bien que le journal ne soit plus en sa possession, elle en connaît chaque mot par cœur. Elle connaît chaque pliure de la carte, chaque terme et disposition du testament. Alors qu'elle attend et attend encore en regardant la lumière s'estomper lentement dans le ciel, elle croit entendre la voix de ses ancêtres l'appeler à travers les siècles. Château de Puyvert. Samedi 3 mai, en l'an de grâce du Seigneur, 1572. Puis la tristesse d'avoir perdu ses documents se transforme en peur. S'il ne l'a pas encore tuée, ce ne peut être que parce qu'il veut d'elle autre chose. Elle regrette désormais sa prudence, la lenteur avec laquelle elle a tendu la main pour gratter le lichen qui couvrait la stèle. Frissonne au souvenir du canon froid du pistolet et de sa voix impitoyable. De son ombre, de son odeur de sueur et de mâche-fer, de l'éclair de blanc dans ses cheveux noirs. Elle avait dégainé son couteau, mais n'avait réussi qu'à lui égratigner la main. Cela n'avait pas suffi. Le ciel ne cesse de s'obscurcir et l'air est immobile, bien que rempli du bourdonnement strident des insectes. Les enfants sont ramenés chez eux et, dans chaque maison, des points de lumière apparaissent alors qu'on allume les bougies. Malgré sa fatigue, la femme continue de veiller à la fenêtre. Elle grignote un peu de pain et ne boit que quelques gorgées de vin du Cap avant de jeter le reste par la fenêtre. Elle ne peut se permettre de compromettre ses facultés. Elle s'assied au pied du lit et attend. La cloche de l'église, dans sa tour blanche et solitaire, sonne le temps qui passe. 9 heures. 10 heures. Dehors, la nuit est tombée. Les montagnes ne sont plus que des ombres. Dans Victoria Street et l'entrecroisement des rues et de ruelles qui l'entourent, les bougies s'éteignent une à une. Franz Hook est une ville qui se couche tôt et se lève avec le soleil. Ce n'est qu'après 11 heures du soir, alors qu'elle lutte contre le sommeil et que la douleur lancinante dans sa tête a repris, qu'elle entend un bruit dans la maison. Elle est immédiatement sur pied. Des pas sur le plancher derrière la porte, mais discrets. Lent, comme pour ne pas être entendue. Elle a eu des heures pour décider de ce qu'elle allait faire, mais c'est l'instinct qui prend le dessus à présent. Elle se glisse derrière la porte, le pichet vide à la main. Écoute le cliquetis d'une clé qu'on tourne dans la serrure, puis le bruit sourd du loquet qui se soulève, et la porte s'ouvre lentement vers l'intérieur. Dans le noir, elle ne voit pas bien, mais elle aperçoit l'éclair d'une mèche blanche, sans le cuir de sa veste, et donc dès qu'il est à sa portée, elle lui jette l'objet de faïence à la tête, estimant la hauteur de celle-ci dans l'obscurité.